Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Aujourd'hui, direction Camarès et le hameau de Saint-Pierre-d'Issis pour y discuter avec un autre Pierre qui nous fait part de sa réflexion savante et mûrie du monde agricole.
Bonjour, est-ce que tu peux te présenter vite fait ?
Donc moi, c'est Pierre Brosse, j'ai 55 ans. Donc je suis paysan à Saint-Pierre-d'Issis, à l'entrée de Camarès. Je me suis installé en 93. Je suis revenu sur l'exploitation, qui est une exploitation que mes parents louaient. Donc je suis venu en 88, à la fin de mes études, puisque j'avais fait un diplôme d'ingénieur à l'école supérieure d'agriculture de Purpan à Toulouse, de 83 à 88.
Voilà. Diplôme supérieur de culture ?
Non, j'ai un diplôme d'ingénieur agricole, d'ingénieur agronome.
D'accord, ok, voilà. À Purpan.
L'école supérieure d'agriculture de Purpan, qui est une école qui avait été fondée par les jésuites il y a 100 ans.
Et donc ton diplôme d'ingénieur agronome est asservi ?
Je dirais que mon diplôme, il m'a surtout amené... Alors là, je vais parler avec le recul aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai très certainement un regard sur le monde agricole et sur la vie que j'aurais pas si j'avais pas eu cette formation. Ouais. À présent, je suis sorti donc, de l'école, comme j'ai dit, en 88. C'était encore à l'époque de la culture triomphante, de la production, d'un moment où voilà, les gens fallait se concentrer fondamentalement sur la fonction de production. Je dirais pas peu importe les moyens, mais à l'époque, c'était... on faisait plus avec plus, d'engrais, avec plus de chimie, avec plus d'intrants, avec... on était encore dans ce monde-là, et ça a été aussi, à partir des années 90-2000, un moment aussi où il y a eu un renversement complet de la politique agricole commune. On a donné des aides directes au monde agricole pour que la société... ne paye pas ce qui est pourtant fondamental pour elle, qui est l'alimentation, à ce juste prix. Donc pour que l'alimentation ne soit pas chère, pour équilibrer le revenu des paysans, on leur a donné des aides. Donc les gens n'ont pas payé directement ce que coûtait l'alimentation, ils le payaient par les impôts. Parce que la première grosse réforme de la PAC, c'est 92, et c'est le moment où on passe d'un système où les aides étaient données au kilo, c'est-à-dire on accompagnait la production, et si système où petit à petit les aides vont basculer à l'hectare, à des droits à produire, et où le fin du système fera qu'aujourd'hui, il existe des exploitations où le premier poste de chiffre d'affaires, ce n'est pas devenu ce qu'il faut, mais c'est les aides qui arrivent de l'Europe.
D'accord.
Donc, et quand on a fabriqué un système où les gens se mettent à optimiser... les aides de l'agriculture, ou réagissent, ou réfléchissent, il faut qu'on soit deux, trois, parce que ça me donne droit à des choses, à des aides, on s'éloigne très vite des fonctions fondamentales et de la relation que doit avoir l'homme avec, enfin, l'agriculteur avec son sol et ses animaux. À titre personnel, donc, moi j'ai beaucoup de respect pour la fonction syndicale. Je ne sais pas si c'est par atavisme familial, parce que mes parents n'étaient pas d'ici. Mon père est arrivé ici en 67 pour traire des brebis, après avoir dit 20 ans avant, le jour où il s'était promené dans le pays, que jamais il trairait des brebis. Donc jamais Fontaine, je ne boirai pas le tonneau, il ne faut jamais le dire. Mais il m'a toujours dit que ce qui était fondamental, c'était l'engagement économique. Et donc j'ai pris des responsabilités, puisque je me suis retrouvé... vice-président d'une coopérative, j'ai eu des responsabilités dans l'organisation interprofessionnelle à Roquefort du côté des fabricants. J'ai même été administrateur pendant 4 ans d'une grande coopérative nationale qui s'appelle Sodial, donc qui gère les marques Candia, Yoplait, Entremont, Régilet, enfin d'autres choses. Et je crois fondamentalement à l'engagement économique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on crée de la valeur et qu'on réfléchisse comment on la partage. Si on est que dans un schéma revendicatif, de dire il faut, il me faut plus, je ne m'en sors pas, Mais je vais être dur avec mes copains paysans. Vous allez les voir, ils vont tous vous dire combien ils ont fait de litres de lait, combien ils ont vendu d'agneaux, combien ils ont vendu de brebis. Vous leur posez la question à quel prix ils ont vendu en moyenne leur agneau, leur litre de lait ou leur brebis. Pas tous vous donneront la réponse. Et quand vous passez après au niveau du prix de revient, alors là, il y en a qui maîtrisent très bien cet aspect-là, mais vous aurez souvent un grand vide. Parce que les gens, si vous voulez, quand on est dans ce monde agricole, on est un petit peu dans ce monde où ce qui compte, quand on se compare, c'est j'ai tant de brebis dans l'hangar ou dans la bergerie, j'ai fait tant de litres de lait et c'est comme ça que je suis grand. Sauf que ce modèle-là, c'est un modèle qui est très pervers, parce qu'en fait, il pousse les gens toujours à chercher à être plus grand que le voisin et à déséquilibrer le système. Et alors, on est dans une fonction, dans un schéma où on veut produire plus, mais pas dans un schéma où forcément, on veut produire plus en quantité, mais pas dans un schéma où on produit plus en valeur. Et donc, il y a aujourd'hui, je pense que le monde agricole est un vrai tournant là-dessus.
On va revenir à ton exploitation en elle-même. Si tu veux, on pourra aborder les autres sujets. Oui, toi, quel est ton corps de métier dans l'agriculture ? Tu produis quoi ?
Donc nous, ici, on est sur une exploitation donc, Sud Aveyron, Rougier de Camarès, un petit peu donc une exploitation qui fait 240 hectares aujourd'hui.
Combien de bêtes ?
Avec 600 animaux présents à la mise bas, donc on dirait 550 brebis. On livre 1500, 1600 hectares de lait suivant les années. Sur ces 240 hectares, il y a quand même 50 hectares de bois et 20 hectares de land, on va dire. Un petit peu de plaine irrigable au bord du Dourdou, mais une exploitation est située quand même dans le Rougier, avec quelques très très belles parcelles qui permettent de sécuriser les stocks. Mais aussi beaucoup de terrain où si on n'a pas les animaux pour aller les chercher, l'herbe qui est produite dessus, croire qu'on peut mettre des animaux dedans, tout mécaniser, je suis sceptique, certains en rêvent, hein, mais je suis sceptique. Donc,
c'est une terre ingrate, non, le Rouget ?
C'est,
ça ne pousse pas très bien, quoi.
Disons que l'herbe, elle pousse une fois par an, et comme vous disiez les anciens, quand vous avez trois années, vous avez une très belle année, une année moyenne et une année mauvaise, où il faut avoir su garder un petit peu de la bonne, pour passer la mauvaise. Et dans un schéma comme ça, on y arrive à peu près tout le temps. Mais quand on se met à penser qu'on peut toujours s'en sortir, parce que la technique va nous aider, parce qu'on a tendance un petit peu à attendre le système. Les paysans, ils sont comme les hommes en général. On a des moyens techniques qu'on n'avait pas il y a ne serait-ce que 40 ou 50 ans. Donc aujourd'hui, on a des tracteurs énormes. Qui permet, là, et les gens croient qu'en remuant, en labourant, en remuant de la terre des cailloux, en remuant du sol, on va fabriquer de la terre. Il faut écouter là-dessus. Et là, dans notre zone ici, je pense que ce sera un vrai enjeu de main. L'érosion est devenue une vraie réalité. Dès qu'il pleut, vous avez les routes rouges, les fossés bouchés. Donc, comme dit l'agronome bourguignon, que je dis, quand j'ai des copains qui me posent des questions, je dis, mais vous avez qu'à vous taper sur YouTube, bourguignon agronome, vous verrez, il vous dira que les cailloux, ils n'arrivent pas le soir en volant dans la plaine. Quand les cailloux apparaissent dans les champs, c'est que la terre s'en va. Et le jour où la terre s'en va, c'est le patrimoine qui s'en va. C'est la, comme on dit, c'est-à-dire la terre, elle n'est pas à moi, je l'emprunte aux générations futures. Et je trouve qu'aujourd'hui, notre monde agricole, et là-dessus, je suis extrêmement en désaccord avec bon nombre de mes voisins. Les gens sont très, très égoïstes. Ils vivent pour eux, et puis après, on est déluge. On a un raisonnement très court-termiste et qui sera très, très dangereux. Sauf que le jour où ici, il ne faut jamais perdre de vue que derrière un paysan, c'est toute l'économie du Roquefort, on pourra en reparler un peu plus tard, c'est cet actif derrière. Donc quand on perd un paysan, on perd cette personne. Alors après, il ne faut pas se plaindre que quand on a tué une ferme, ou si demain la terre n'est plus productive, eh bien, il n'y aura plus d'école, il n'y aura plus de services publics, il n'y aura plus de poste, il n'y aura plus rien.
Et tu disais tout à l'heure, on a monté cette activité, on attend de chèvres. Tu es en GAEC, vous êtes plusieurs sur la ferme.
La vie a fait que donc mes parents avaient ce bail de fermage et les propriétaires, pour plein de raisons, ont décidé de vendre la ferme. Donc à ce moment-là, avec mon frère le plus jeune, qui avait fait la même école que moi, et Jean-Marie, nous avons bâti le projet de racheter l'exploitation. Il y avait le patrimoine foncier, on avait donc les brebis, un petit peu de capital puisque on avait racheté les parts de mes parents avec mon frère, mais les bâtiments étaient obsolètes, donc il a fallu, et on savait à quoi s'engager, il a fallu donc construire au fil du temps deux bâtiments, deux bergeries, parce que les bâtiments anciens, il y en a une partie, on ira le voir tout à l'heure, qu'on a rasé, parce que de toute manière, elle ne méritait pas mieux. Ouais. Elle avait été rénovée en 1910, donc elle ne pouvait pas... Et c'est la vie, donc après, je veux dire, il n'y a pas eu de... On a restructuré une partie du foncier, en ce sens qu'il y avait, on a fait quelques travaux de drainage, d'aménagement, mais on n'est pas allé... C'est une exploitation qui... on est une des rares exploitations ici à ne pas avoir grandi et même avoir perdu un peu de surface, je dirais, puisque quand on a acheté l'exploitation, il y avait 252 ou 4 hectares. Et étant situé aux portes de Camarès, il a fallu qu'on négocie, et ça faisait partie du deal avec... pour que la ville de Camarès vive un peu, elle avait aussi besoin d'un petit peu d'espace pour faire développer une zone artisanale, une zone commerciale. D'accord. Aujourd'hui, nous, on a une exploitation où on a fait... on n'est pas dans le choix d'une production forcément maximisée, ni sur le sol, ni sur les animaux. On considère qu'il faut être assez... Après, je dirais qu'il y a eu une époque où on était un peu plus tendu parce que... On est dans la phase où on a fini de payer le foncier, on a fini de payer les investissements bâtiments qu'on a réalisés. Même si on s'en est fait une grosse partie nous-mêmes, il a quand même fallu un peu de concours bancaire. Donc c'est vrai qu'on est à un moment donné où on prend un peu de recul sur tout ça. Mais ceci étant, par exemple, moi j'ai... pratiquement, de mémoire, je crois que ça fait 30 ans qu'on n'a plus de charrues sur l'exploitation, si vous voulez. Mmh. Alors, je ne dis pas que ça a été toujours facile, parce qu'il y a des fois, on a eu des échecs, des sidémies, mais par exemple, les notions de préservation des sols sont des notions qui me sont, depuis longtemps, et avec mes autres associés, très importantes. Et des fois, il vaut mieux, nous, on considère qu'il vaut mieux produire un petit peu moins... mais produire tous les ans que maximiser la production, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, et puis ceux qui viendront derrière, ils n'auront plus rien, parce que si on se promène un peu un jour, quand on regarde et qu'on a l'œil, on voit qu'il y a des endroits où même en plein hiver, sur des dessus de rougier, mais on voit la terre rouge, on ne voit jamais plus rien pousser. Je pense qu'on aura des lendemains très délicats dans cette zone ici, avec des problèmes de désertification de sol très graves. Mais bon, ça c'est... Donc après, pour revenir à l'exploitation, ouais. Et donc aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase de l'exploitation où on a décidé d'anticiper la notion de la transmission. C'est-à-dire que, alors là, je vais surprendre certainement beaucoup de mes congénères et confrères, c'est-à-dire que je n'ai pas une vision patrimoniale du foncier. C'est-à-dire que, je suis à un âge... où beaucoup de gens s'interrogent sur qu'est-ce qu'ils vont faire du reste de leur vie. Comme on dit, on n'a qu'une vie, on se rend compte qu'on en a deux, le jour où on a pris conscience qu'on en avait qu'une. Donc moi, j'ai 55 ans et j'ai passé avec un immense plaisir beaucoup de temps sur mon exploitation, et même encore, je me lève le matin et je n'ai pas du tout la haine quand je vais au travail, mais j'ai envie de faire autre chose dans ma vie. Pour deux aspects, c'est un... Je fais partie de la génération qui prendra sa retraite tard. J'ai eu le bonheur ou le malheur de faire des études, donc il me faut travailler jusqu'à 67 ans. Et à 67 ans, je ne me vois pas me lever tous les matins pour aller traire des brebis. J'ai un peu de formation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une petite expérience professionnelle, et j'ai envie de faire autre chose. Donc aujourd'hui, on a entamé il y a 2 ans avec mon frère, le nouvel associé, puisque le hasard de la vie ou le malheur de la vie a fait que Jean-Marie, celui avec lequel on avait monté ce projet, est parti trop tôt. Et ça, c'est la vie, qui nous amène aujourd'hui à avoir fait le choix de vendre l'exploitation. Enfin, de vendre, de mettre cette exploitation à la vente. parce que je ne vais pas attendre de me retrouver, si vous voulez, une exploitation, il faut avoir envie de, faut y être bien tous les matins dedans. Moi, aujourd'hui, je suis bien tous les matins, mais dans 10 ans, j'aurai peut-être la haine. Donc, je ne veux pas attendre d'avoir la haine. Je veux la vendre tant que je m'en occupe bien, qu'elle va bien. Et je veux la vendre au prix, au juste prix que valent les choses. Quoi, voilà. Nous, on a réussi, on était trois, on n'avait pas un fifrelin, hein, comme je vous ai dit, à part le capé de trois brebis, et, enfin, les brebis, et un peu, on a réussi à la payer. Donc, il n'y a pas d'autre. Je ne suis pas du tout dans la notion, mais que ce soit. Mon frère et le troisième associé, on n'est pas du tout, par exemple, la notion de vous de dire je produis tant d'hectos, tu dois me donner tant d'argent. C'est pas vrai. La terre, elle a un prix. Une bergerie, elle a 20 ans, donc c'est comme une maison. Vous l'avez habitée pendant 20 ans, vous ne pouvez pas demander le jour où vous la vendez qu'elle vaille le prix que, quand vous avez payé le maçon. Ouais. Donc voilà, les choses ont un prix. C'est vrai que ça fait du capital. Là aussi, je pense que où le monde agricole, et ça je m'en rends compte, est capable de prendre ses enjeux. C'est-à-dire, si le monde agricole veut rester maître de la production, il devra demain se donner les moyens d'avoir une approche collective du foncier. Aujourd'hui, les gens n'ont qu'une vision patrimoniale du foncier. Et ça, c'est un drame. Quand je vois comment des fermes aujourd'hui sont multicommunales, multicantonales, le temps que des gens passent avec déplacement, un kilomètre, sans parler du carbone, et qui sont infoutus de se réunir avec plusieurs voisins, de produire ce qu'ont fait les générations d'avant. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut faire des remembrements, mais à l'époque, on les faisait à l'échelle de la commune, il faudra demain les faire à l'échelle d'un territoire. Il y a des zones, par exemple, dans le Cantal, des gens, quand il a s'agit de l'appellation de repositionner le pâturage au cœur de l'appellation Cantal, les gens se sont mis autour de la table et ont dit « Maintenant, il va quand même falloir qu'on discute ». Qu'on réorganise des fermes liées au pâturage. Aujourd'hui, les gens vous expliquent qu'il faut tordre les règles, qu'il faudrait faire une AOC sans pâturage, une AOC avec des brebis qui restent dedans tout le temps, mais qu'ils puissent chacun garder leur ferme partout.
Et pourtant, alors, je vais peut-être dire une bêtise, je ne suis pas bien enseigné. Vous avez monté Pastourelle, qui est, comment dire, une marque de Roquefort, alors, sans être à Roquefort.
Pastourelle, c'est... C'est parti, je me souviens de toute ma vie, ça s'est décidé un soir, il y a une réunion à Moulins et une autre qui a eu lieu à... Et comme on allait passer Noël chez ma grand-mère dans le Lot-et-Garonne, on était parti, on s'est arrêté, mon père s'est arrêté faire une réunion l'après-midi et on a attendu la voiture à Mort de la Vaissonnier. Et il y a eu, comme il y avait Ernest Combel là-bas qui était un mec... Ils ont parlé de faire la coopérative. Au bout d'un moment, il s'est levé, il a ouvert la porte, il a dit « Écoutez, est-ce qu'ils veulent faire la coopérative ? Il reste, les autres, vous partez, parce que l'on a eu du travail. » Et puis, bon, la coopérative s'est créée comme ça. Elle a eu ses problèmes, notamment parce que, si vous voulez, quand vous êtes paysan, que vous voulez fabriquer, affiner et vendre, c'est des métiers supplémentaires qu'on ne maîtrise pas toujours. Ceci étant, elle n'a pas qu'à lâcher. Ça a été compliqué. Elle a eu des difficultés techniques la deuxième campagne. On a jeté une partie des fromages parce que problème de choix de bleu. Un fournisseur traditionnel avait pris la retraite et était mort, donc on a pris un nouveau qui n'était pas... Bon, c'est la vie. À ce moment-là, on a trouvé des accords avec une coopérative du Cantal qui s'appelait Centrelais. Donc je vous le fais vite parce que là, c'est très long sinon. Mmh. Et de là... On est rentré dans un univers d'appellation, mais fondamentalement, on était une goutte de lait dans un océan, une goutte de lait de brebis dans un océan de lait de vache. Ceci étant, ça a amené le savoir-faire qui nous manquait, c'est-à-dire on a su fabriquer, on a su affiner, on a su vendre. Les gens du Cantal nous avaient permis en trésorerie de passer le quart d'heure. On a rendu tout l'argent. Sur les 5 années qui ont suivi, les paysans... La laiterie de Montlore a été construite parce qu'il fallait se doter d'un outil qui tienne un petit peu la route, parce qu'il y avait deux petites laiteries de campagne. Et après, il y a eu un projet stratégique mené avec le président Lapeyre, qui était président de l'ULPAC puis de 3A, dont le siège était à Toulouse, où ces gens-là ont considéré que pour que la coopérative elle existe sur le Combalou, il fallait qu'elle atteigne 10% du marché. Parce que, donc, il y a eu. On avait la capacité d'affinage, ce qui est fondamental. Et donc, il y a eu tout un... Et donc, la coopérative, et comme diraient certains acteurs, c'est le dernier... On est rentré le dernier sur le marché, on nous a critiqués, on a été dérangés. On a amené des quantités de fromage additionnel à l'export sur des segments de marché qui n'étaient pas utilisés par d'autres à l'époque. Et après, on a eu le courage, pour revenir à votre question d'origine, de s'attaquer dès 1996, parce que vous avez eu les problèmes aussi. C'était les années compliquées où la production explosait, on ne savait pas la gérer. Dans la coopérative La Pastourelle, on a fait un choix en accord avec le principe de la coopération, c'est-à-dire il y a eu une réflexion qui a été menée pendant 6 mois. Les gens se sont réunis, on a fait venir des gens, et notamment à l'époque, un monsieur qui arrivait... de monsieur originaire du Tarn, il s'appelait Auré Clos, qui avait travaillé à la coopérative d'Arcis-sur-Aube dans la betterave, et qui expliquait que les quotas, c'était la plus mauvaise solution que pouvait utiliser le monde agricole pour gérer la production, parce qu'au début, on le refuse, puis on s'y habitue, puis ça devient un privilège inaliénable qu'on veut vendre. Et quand on regarde, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et donc, nous, on a fait le choix de faire un système de gestion de la production basé sur l'actif, qui effectivement... à considérer que certains paysans, et moi je peux vous amener voir encore aujourd'hui des gens qui sont retraités, qui ont rejoint le schéma pastourel en perdant de l'argent par rapport à un système collectif, par rapport au, pas un système collectif, par rapport au système des références, mais parce qu'ils considéraient que c'était plus important pour eux de faire en sorte que leurs voisins à côté puissent un petit peu grandir plutôt qu'eux d'être de plus en plus gros et de plus en plus riches. Et l'économie, si elle n'est pas au service d'une politique... c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que la seule chose qui compte et l'aboutissement ultime du système, c'est le trading haute fréquence, c'est la spéculation à la nanoseconde. Et c'est très compliqué, parce que c'est vrai que le monde agricole était très pétri de cette histoire de transmission.
Eh bien, il va falloir que je revienne, j'ai l'impression.
Il n'y a pas de problème.
Alors, est-ce que tu en as bien vécu de ton métier ? Est-ce que tu avais du temps pour toi ? Est-ce que tu vivais, tu avais suffisamment d'argent ?
Oui, moi, comme je vous ai dit, c'est un projet qu'on a fait à trois. Donc, quand vous faites un projet à trois, on partage les tâches, on partage le revenu, mais surtout, on a un peu d'équilibre, parce que vous pouvez être tout seul et très riche, mais si vous n'avez jamais de temps...
Pas le temps de dépenser le pognon.
Voilà, donc après, moi, je regrette pas du tout la vie que j'ai menée. C'est vrai que si vous voulez, je savais très bien quand je suis rentré dans le métier, quand on a fait le choix d'acheter l'exploitation, je savais très bien à quoi je m'engageais. Après, si vous voulez, c'est comme dans tous les métiers. Un des drames du monde agricole, c'est qu'ils refusent l'impôt et ils refusent les charges sociales. Donc pour ne pas les payer, il est capable de se surendetter. À la différence d'un salarié, quand il gagne beaucoup d'argent, c'est vrai qu'il va chercher à défiscaliser. Mais souvent, il défiscalise comment ? Il défiscalise en investissant dans l'immobilier. Il va acheter l'appartement, la loi Pinel, la loi Machel, la loi Truc. Enfin bon, il y a plein de... Le paysan, qu'est-ce qu'il va faire ? Il défiscalise, mais souvent, l'investissement qu'il fait, il y amène un revenu complémentaire, qui fait qu'un à l'autre... Alors que quand vous regardez bien un paysan qui défiscalise, souvent il achète plus de travail, c'est-à-dire qu'il investit. Alors il va acheter un tracteur plus gros, mais il ne va pas l'acheter avec l'argent qu'il a sur le compte en banque, il va l'acheter en allant chercher l'argent chez le banquier. Et donc il dit, pour payer moins d'impôts demain, il me faut emprunter aujourd'hui. Et quand vous regardez, si vous voulez, alors après, regardez bien tout ce qui se passe autour, les concessions de matériel agricole, tout ça, c'est florissant. Donc ces gens-là gagnent beaucoup d'argent, mais les paysans... Alors, et c'est comme si le smicard, il vous dit qu'il veut rouler en Rolls. Tous les paysans aujourd'hui, un bon paysan, il faut qu'il ait un Fendt, il faut... Voilà, vous avez exactement le même étalon dans les marques de tracteurs que dans les marques de voitures, et vous pouvez vous être... Et on peut s'interroger là-dessus. Et quelque part, il y a un vrai problème là-dedans. Je pense qu'à un moment donné, un paysan qui estime qu'il paye trop d'impôts, qui estime qu'il paye trop de MSA, il a qu'à travailler un peu moins et laisser à un autre voisin la capacité. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc tout à l'heure, tu me disais que tu comptes bientôt arrêter la paysannerie, l'agriculture. Mais est-ce que c'est un métier, toi, que tu conseillerais à un jeune qui veut s'installer, tout ça ? Est-ce que tu le mettrais d'abord en garde ou tu voudrais d'abord le mettre en confiance ?
Il y a plein d'opportunités. Qui vont s'ouvrir. Il faut savoir où on met les priorités.
Et si jamais le futur repreneur ne veut pas faire de la brebis ?
Il fera ce qu'il voudra.
D'accord. Même si tu considères que le modèle économique...
Moi, j'ai travaillé dans le modèle de la brebis laitière, mais je suis sûr qu'il y a, plein d'autres il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites. Des plantes médicinales, des semences. Je dirais qu'un modèle sans élevage ici, ce serait un modèle très compliqué. Parce que pour valoriser des terrains à très faible potentiel, la brebis va chercher...
Avec des pentes et tout.
Mais ou de la brebis. Mais après, c'est pas parce que je pense qu'il faut un peu d'élevage et que dans les systèmes bien pensés, agro-silvopastoraux qu'avaient inventé nos anciens, les brebis allaient manger dans les mauvais terrains, chier à la bergerie et on mettait le fumier dans les bonnes parcelles. Donc, si vous voulez, ça faisait un transfert de... quand on a un bon chargement, et c'était ça aussi. Après, moi, je ne suis pas du tout, si vous voulez, déjà, peuvent vivre aujourd'hui avec des cochons sur paille, avec des vaches, avec... Après, par contre, toute la difficulté du choix, c'est à combien vous voulez vivre et comment vous voulez organiser votre vie.
Et puisqu'on y est, alors, ma question philosophique, 30 ans dans l'agriculture, tu as fait.
Ouais.
Et à ton avis, qu'est-ce que l'agriculture, notamment ton métier à toi plus particulièrement, sera dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que tu as une idée de la tournure que va prendre le monde agricole?
Ah ben là aujourd'hui, le monde agricole, il va être à la tournée du patrimoine. C'est-à-dire, moi j'ai encore quelques responsabilités, je suis un peu administrateur à la pastourelle, et je pense que où le territoire va avoir la conscience qu'il faut être propriétaire des champs, et que sinon, si on est que dans une approche patrimoniale, où les gens veulent réaliser le capital, vous allez vous retrouver comme ce qui se passe dans les régions viticoles, où les gens seront dehors de chez eux, c'est-à-dire qu'arriveront demain pour investir, pas forcément des Chinois, mais des gens qui achèteront l'espace, parce que ça peut produire de la biomasse, parce que quand vous êtes, si vous avez ces gens-là qui sont dans des schémas à moyen terme, vont dire, mais une ferme comme ici, on peut mécaniser, on va planter des arbres dans la plaine, on va faire du taillis à courte rotation. Eux, ils ont les moyens d'attendre 5-10 ans avant d'avoir les premières récoltes, chose qu'un paysan, souvent, il n'a pas la trésorerie, le temps d'attendre. Donc aujourd'hui, vous avez déjà... Et si demain, le territoire est... Ça fait partie de réflexions que j'ai avec quelques copains avec lesquels j'étais à l'école, où... mais je ne suis pas sûr que le monde agricole soit encore mûr, alors que je pense que la société pourrait accompagner les gens dans le portage du capital foncier. C'est-à-dire que je suis sûr qu'aujourd'hui, les gens qui vivent en ville, même dans nos villes, on va dire du Sud-Aveyron, hein, même en Sainte-Afrique, je suis sûr que les gens ces gens-là ont plus conscience de la nécessité de garder le pouvoir. Et le jour où on perdra le pouvoir sur la terre, on perdra le pouvoir. Hein. Donc, mais c'est pas un pouvoir familial qu'on aura sur la terre. C'est un pouvoir, il faut qu'on crée des fonds collectifs. Voilà. Peut-être que ça fait partie de choses que je ferai dans une nouvelle étape de ma vie. Mais c'est fondamental. Mais ça fait partie. Je pense qu'il y a des enjeux importants là-dessus. Philosophiquement, voilà. Le monde agricole a à faire face à ces enjeux. Mais bon,
et après... donc, est-ce que tout à l'heure, tu as un peu ébauché l'idée ? À ton avis, l'avenir de l'agriculture, ça va être plus dans la polyculture, dans la diversification des productions ?
Après, moi, je pense qu'il faut qu'on revienne à des systèmes, d'un point de vue agronomique, d'assolement beaucoup plus variés. Qu'aujourd'hui, on fait des assolements qui sont liés à...
L'assolement, c'est quoi ?
L'assolement, c'est la succession des cultures qu'on met en place. D'accord. Si vous voulez. Le monde agricole, aujourd'hui, a énormément perdu de la... il a délégué beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il a délégué aux techniciens, il a délégué...
aux bureaucrates.
Non, plus bassement. C'est-à-dire que il décide pas. C'est le mec qui lui... Alors, il a une relation particulière avec le vendeur X ou Y qui va venir lui vendre... des choses, mais il n'y a pas de réflexion collective sur un assolement, il n'y a pas de réflexion collective comment je fais pour éviter l'érosion, il n'y a pas de... Pourtant, il y a eu des fonds publics qui ont été dépensés, il y a eu... Ils verront ailleurs ce qui se passe. Vous allez aujourd'hui dans le Gers, vous avez des gens qui ont fait de vraies réflexions. La protection des sols, pour moi, ça va devenir un enjeu fondamental. Les gens ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, on a des moyens colossaux. Alors, la terre s'en va, comme je vous ai dit tout à l'heure, les routes viennent rouges, les fossés sont bouchés, on cure, on jette tout ça. Cette terre, c'est tout. Après, on achète un broyeur à cailloux, on fait de la poussière qui repartira l'année d'après. Là, il y a de vrais, vrais, vrais enjeux. Vrais enjeux. Et après, il faudra aussi qu'on repose le débat fondamental dans le monde de l'élevage, de la taille de l'exploitation. Ça fait partie, par exemple, des débats que des appellations comme le Comté ont le courage aujourd'hui de poser. C'est-à-dire de dire qu'on ne peut pas agrandir indéfiniment dans un modèle de... Parce qu'une appellation d'origine, c'est quoi? C'est une exception aux lois de la libre concurrence qui permet de faire revivre de l'agriculture dans des régions compliquées. Le bio est menacé d'exploser en vol parce qu'il y a des dérives industrielles dans le bio. C'est-à-dire que... dans toute chose, chacun a son sein, les meilleures et les pires des valeurs, et peut les utiliser. Et après, voilà, il faut être... Et le monde agricole n'imagine pas ce que sera demain. Le monde agricole veut vivre un instant présent aujourd'hui, alors que les anciens étaient toujours dans un temps court. Quand ils plantaient un arbre, ils plantaient toujours un arbre, sachant pertinemment qu'ils ne le ramasseraient jamais. Parce qu'ils plantaient pour les générations futures et qui feraient qui un meuble, qui une charpente, qui le monde agricole était un monde aussi fait de solidarité, de moments où les gens s'entraidaient. Aujourd'hui, ils ont tellement grandi que ce qu'on appelait les corvées ou les battages, qui étaient devenus maintenant les battages, qui étaient une fête. Hein, après, il y avait l'ancien. Aujourd'hui, vous avez déjà, ils vous disent, j'en ai marre, ça dure trop longtemps, c'est trop fatigant. Il devrait s'interroger pour que ce qui était une fête soit devenu un enfer. Ouais. Mais à condition d'être pas favorable que pour celui qui s'est vu voler et puis d'avoir un projet à long terme.
D'accord. Ben merci Pierre. Okay.
Merci à Pierre d'avoir partagé avec nous sa vision de la paysannerie d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site radiosaintafrique.com. Rubrique Parole rurale. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.